La hussarde.
Oui.
Caroline.
Oui, c'est ça.
Bonjour.
Bonjour Thomas.
Enchanté. Bon, alors, même. On va faire toute la série ensemble.
Et oui, normalement, c'est ce qui est prévu.
Et ça te plaît, la politique ?
Oh, vous savez, je...
Oh, attends, on se tutoie quand même.
Ouais, on se tutoie.
Bon, donc la politique, bof, bof, quoi. T'es pas passionné. Bon, en
plutôt
tout cas...
de loin, ouais.
De loin, d'accord. Ouais. Bon, en tout cas, c'est la première. On va tout réécouter, on va tout monter. Il faut pas se louper parce que elle est importante. On l'appelle l'été des dupes. Ça s'est passé en août 2016. C'est le moment où Macron démissionne. Tout commence à ce moment-là.
Ok, mais tu peux compter sur moi, t'inquiète pas.
Alors on y va. Donc là, ça c'est le début, juste après le générique.
Yeah, c'est ça, épisode 1. On envoie ?
Envoie. Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons nous replonger dans la période électorale 2016-2017 pour revivre l'arrivée à la hussarde de cette nouvelle ère de la politique française qui a débuté avec l'élection inattendue du plus jeune président que la France ait connu. Nous allons revivre l'aventure politique et électorale de tous les grands candidats. Et pour ce premier épisode, que nous pourrions appeler l'été des dupes, il s'agit de cet été 2016, à la fin duquel le ministre de l'économie et de l'industrie, Emmanuel Macron, pépite scintillante de la Hollandie pourtant déclinante, démissionne du gouvernement. C'était le 30 août. Et avec nous, Gaspard Ganzer, qui fut le conseiller en communication de François Hollande.
Bonjour. Mais c'est qui ce Garnier, là ?
Non, pas Garnier, Gaspard Ganzer. Ganzer, en fait, c'est très intéressant parce que Gaspard Ganzer, il est le conseiller en communication de François Hollande, donc il a le bureau juste à côté.
Donc il entendait tout,
en fait. Il entendait tout, mais surtout, il est très proche de François Hollande, donc François Hollande lui confiait beaucoup de choses. Et puis, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en même temps, il a le même âge que Macron, il était à l'ENA avec Macron, ils faisaient du sport ensemble, donc il est vraiment entre les deux, c'est la personne idoine pour nous parler aujourd'hui, il a écrit un livre sur toute cette expérience, ça va être très bien, tu vas voir.
Ok.
Bonjour Gaspard Ganzer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous allez nous accompagner pour tout nous raconter de la façon dont cet événement, le départ du fils prodige, a été vécu de l'intérieur du château. Vous étiez le conseiller en communication de François Hollande et vous avez écrit La politique, un sport de combat chez Fayard. C'est un journal de bord et au 31 août, c'est-à-dire au lendemain de la démission et du coup de tonnerre, eh bien, vous écrivez que vous trouvez François Hollande abattu. Et pour entamer la conversation avec lui sur le sujet, et sans doute pour détendre un peu une atmosphère qu'on imagine plombée, vous aviez préparé à son endroit une petite blague pas très fine. Qu'est-ce que vous lui avez demandé ?
C'est vrai, je lui ai demandé si les services secrets, c'est-à-dire la DGSE, l'avaient prévenu de l'attentat d'Emmanuel Macron.
Il a ri ?
Ça l'a fait rire, mais plutôt d'un rire pincé et un peu jaune, je crois.
Alors, Macron, comment dit-on ? Je crois même que dans le premier édito dans lequel j'évoque le secrétaire général adjoint de l'Élysée, alors ça c'était en 2012, au début du quinquennat Hollande, je dis Marcon, je me trompe, je ne connaissais pas. Et quand ce jeune homme charmant et charmeur devient secrétaire général adjoint à l'Élysée, choisi par le président, personne, à part les initiés, les très initiés, ne sait qui il est. Et vous, eh bien, vous le connaissiez puisque vous avez partagé les bancs de l'ENA avec lui.
Oui, exactement. Je l'ai rencontré pendant l'épreuve de sport du concours de l'ENA. Puis on a fait toute notre scolarité ensemble et on s'est jamais perdu de vue, même si il y a des moments où on s'est moins vu. Et on s'est retrouvé à l'Élysée quand moi j'y suis arrivé en 2014. Lui, il y était déjà depuis 2 ans. Donc ça faisait très longtemps qu'il connaissait François Hollande. Moi, je le découvrais à ce moment-là. Et j'ai vu son ascension de l'intérieur pendant tout ce quinquennat.
L'épreuve de sport, il était compétitif T'es un compétiteur déjà.
il aime bien la compétition. C'est pas un immense sportif, hein, on va pas se mentir. Mais il s'en était plutôt bien sorti.
Bon, personne.
Et qu'est-ce qu'on fait de ça, là, l'anecdote sur le sport ? On garde, on coupe, on fait quoi ?
Écoute, elle est pas mal. Pour l'instant, on la laisse, je pense. Et puis on la coupera si c'est trop long plus tard.
Ok, c'est reparti.
Personne, ni même lui bien sûr, ne se doute qu'il deviendra président de la République et qu'il bouleversera le rythme implacable de l'alternance entre la gauche et la droite, cette alternance quasi mécanique qui était inscrite dans la logique même de nos institutions et des modes de scrutin, pensait-on, logique qui forçait à la bipolarisation et donc à la pérennité, à l'éternité d'une droite et d'une gauche. Mais c'est quand il est ministre de l'économie et de l'industrie, dans la seconde moitié du quinquennat Hollande, que germe l'idée dans son esprit de créer une force politique, pas un parti, dit-il, une force force pour sortir du clivage gauche-droite et pour mettre la France en mouvement, en libérant les énergies. Que de mots, de thèmes, maintes fois finalement rabâchés par tous les libéraux et les centristes de droite et de gauche. Depuis des années, Macron utilise son poste à Bercy, au cœur de la machine d'État, pour renforcer ses amitiés, ses réseaux. Il petit déjeune, il dîne, parfois même deux fois le même soir, pour rencontrer du monde, tisser sa toile. Le 6 avril 2016, toujours ministre, il annonce dans sa bonne ville natale d'Amiens, lors d'une réunion publique au cours de laquelle il apparaît tout seul, hein, il déambule sur une scène façon stand-up, eh bien il annonce qu'il crée le mouvement.
Ah bon, arrête là, c'est là qu'on va mettre l'archive.
La 3B, celle du 6 avril 2016.
C'est ça.
Ok.
Pour un nouveau mouvement politique,
je ne sais pas si ça va réussir.
C'est trop
mais
drôle.
Si on veut être cohérent,
mots, on dirait un gamin.
Ouais, c'est vrai, c'est dingue. Hein. En fait, sa voix a vachement changé. Avant, il était pas élu, c'était un gamin, 39 ans, personne ne le connaissait. Il avait cette petite voix là. Maintenant, alors c'est sans doute la même voix, mais comme il est président, on le perçoit autrement.
Ouais, c'est vrai.
C'est marrant. Hein.
Tiens, on écoute.
Ce sera un nouveau mouvement.
On écoute et puis tu enchaînes avec ma question à Ganzer.
Ok, d'accord.
Ce sera un nouveau mouvement politique. Je ne sais pas si ça va réussir. Mais si on veut être cohérent, il faut prendre le risque. Ce n'est pas un mouvement pour avoir un énième candidat de plus à la présidentielle. Ce n'est pas ma priorité aujourd'hui. Ma priorité, c'est la situation du pays. Et donc ce mouvement, c'est pour dépasser tout ça. Et donc la priorité, ça commence maintenant. C'est ce que vous en ferez. Vous pouvez être membre du Parti Socialiste et adhérer à En Marche. Vous pouvez être membre des Républicains et adhérer à En Marche, ou membre d'un autre parti républicain. Parce que c'est pour construire quelque chose d'autre. Ça commence ce soir, et tout dépend de vous maintenant.
Alors vous avez entendu, ce n'est pas un mouvement pour un énième candidat à la présidence de la République, dit Emmanuel Macron. Eh bien si, Gaspard Ganzer, vous étiez, vous, hein, pas le président, mais vous, dans quel état d'esprit, en entendant votre ancien camarade de promo, créer son propre mouvement, il était ministre et il crée son propre mouvement à un an de la présidentielle?
J'ai trouvé ça très gonflé, honnêtement, parce que il fallait quand même du courage et de l'audace pour oser sortir du bois. À ce moment-là, moi, je me disais qu'il ne pouvait pas avoir en tête d'être candidat à la présidentielle dès l'année 2017. Ça me semblait quand même très tôt. Et je trouvais ça plutôt une bonne idée de chercher un peu à bouger les lignes partisanes, parce qu'on avait quand même un système politique vieux, abîmé. Et ça, on en avait souvent parlé, Emmanuel Macron et moi, pendant nos études et bien après, le fait que l'appareil partisan français était quand même très sclérosé. Et je me disais, tiens, c'est pas mal de tenter le coup.
D'accord, vous étiez dans cet état d'esprit. C'est intéressant parce que, on va pas trahir des secrets, mais c'est normal, je suis éditorialiste, je vous téléphonais de temps en temps pour essayer de savoir quel était l'état d'esprit. Et vous me disiez ça, mais je pensais que vous me baladiez un peu, bah non.
Bah pour une fois, peut-être que je vous disais totalement la vérité. Non, j'ai plutôt l'habitude de dire la vérité aux journalistes. Après, je pouvais enrober les choses en fonction de ce qui m'arrangeait. Mais honnêtement, j'ai toujours pensé qu'il fallait dire exactement ce qu'on pensait aux journalistes. C'était quand même plus simple. Parfois, on peut laisser peut-être des zones d'ombre. Non, je pensais ça, et depuis longtemps. Mais je ne me doutais pas qu'il irait jusqu'à la transgression suprême de la candidature à la présidentielle contre le président de la République sortant. J'ai certainement été naïf, mais je plaide les circonstances atténuantes parce que je crois que pas grand monde à ce moment-là se disait que c'était possible qu'il puisse évidemment gagner l'élection présidentielle, mais même être candidat, tant l'espace semblait fermé devant lui.
Et vous avez cru à un moment que François Hollande pouvait être dans le coup, parce qu'il y a eu cette rumeur, on se disait, en fait, François Hollande n'a pas de débouché politique, on voit bien que s'il se présente à l'élection, bon, le rapport de force est pas pour lui, mais voilà, on se dit, peut-être qu'il veut faire une ouverture au centre ou à droite, on sait qu'il est malin, et finalement tout ça a été téléguidé par François Hollande, beaucoup l'ont cru, certains l'ont écrit.
Téléguidé, non. En revanche, ce qui est vrai, c'est que François Hollande avait été mis au courant de ce qu'Emmanuel Macron préparait, parce qu'Emmanuel Macron l'avait prévenu, alors un peu en sous-estimant lui-même ce qui allait se passer, il disait je vais créer un think tank que tu vas voir tourner vers la jeunesse. Bon, c'était pas un think tank, c'était un vrai mouvement. Et puis François Hollande cherchait de l'air politique à ce moment-là. Il se disait que de toute façon, s'il voulait gagner l'élection présidentielle et être candidat, il n'allait pas pouvoir compter sur une alliance classique à gauche, et qu'il fallait un peu écarter les murs s'il voulait retrouver de l'espace. Quand Emmanuel Macron lui a dit qu'il allait créer ce mouvement, il s'est dit bah peut-être que ça peut me bénéficier. Au bout du compte, sait-on jamais. Mais je pense qu'il ne pensait pas que Emmanuel Macron irait jusqu'à la candidature à ce moment-là. S'il avait pensé à cela, je pense qu'il aurait eu un regard différent sur le lancement de ce mouvement.
Il ne l'a pas encouragé en lui disant explicitement « Vas-y, ça va me servir pour ma candidature ».
Non, il lui a pas dit ça, mais il ne l'a pas découragé non plus. Il lui a dit « Vas-y, tente ta chance ». François Hollande, comme beaucoup d'hommes politiques de ce niveau-là, est très, on va dire, darwiniste ou darwinien. C'est-à-dire qu'il laisse les initiatives se faire, et puis après, il voit ce qui ne marche pas, et il essaie aussi de les récupérer à son profit. Là, il a peut-être présumé de ses forces, et c'est son jeune disciple qui l'a dépassé.
Stop, arrête ici, c'est là qu'on va mettre l'interview de Sapin.
Quelle interview? J'ai pas vu l'interview de Sapin, moi.
Ah oui, c'est vrai, elle est sur ma clé USB, t'as qu'à l'importer, je l'ai faite en avril, j'ai oublié de te la donner.
Ah oui, je me disais aussi. Et au fait, il faisait quoi, Sapin, au moment où Macron a créé son mouvement?
Eh ben, il était ministre des Finances, alors que Macron était ministre de l'Économie, et il a tout pigé, Sapin. C'est-à-dire qu'il a bien vu que Macron avait des ambitions personnelles, hein, qu'il voulait peut-être se présenter. Il a commencé à expliquer ça à Hollande, mais Hollande, contrairement à ce qu'on peut imaginer, eh ben, il a rien vu. Sapin nous le raconte, c'est incroyable à voir.
Malin, le Sapin.
Ben oui.
Bon, allez, je te le balance.
Ok, puis tu raccordes avec ma question à Ganzer.
Toujours Ganzer, pas de problème.
Il y avait le sentiment qu'au fond, tout ceci pourrait le servir, lui, François Hollande, le jour venu, parce qu'il faut rassembler large, parce qu'il y avait besoin, en quelque sorte, en des termes un peu anciens, si je puis dire, d'une aile droite qui pourrait éventuellement venir le soutenir et venir compléter d'autres ailes plus à gauche qui sont indispensables à une candidature d'un candidat socialiste. Donc à chaque fois, il tempérait en disant « mais non, ne t'inquiète pas ou ne vous inquiétez pas, tout ceci peut être utile, c'est la théorie du râteau, on va ratisser plus large avec une personnalité comme celle d'Emmanuel Macron ». Pour dire les choses, il a tenu ce discours, y compris après la démission d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'il l'a tenu jusqu'à quelques jours avant que lui-même ne décide de n'être pas candidat.
Est-ce que vous pensez que s'il avait cette conviction, c'est que Emmanuel Macron le lui laissait croire?
Évidemment. Il faisait tout pour que chacune de ces décisions ne soit pas perçue comme étant conflictuelle, comme étant une décision contre François Hollande. Il a pris soin à chaque fois de le voir, de lui expliquer. C'est compliqué d'analyser pourquoi on a cru quelque chose qui ne s'est pas réalisé.
Gaspard Ganzer, toute la Hollandie s'est fait avoir.
Oui, alors je pense qu'Emmanuel Macron a été très habile, il faut le reconnaître. Vous savez, c'est d'une grande chance d'être sous-estimé par ses adversaires et même par ses amis. Et Emmanuel Macron l'a compris depuis très longtemps.
Hollande l'avait compris avant lui.
Oui, je crois que c'est une grande qualité. Rares sont les hommes politiques qui gagnent en disant depuis le début « je vais tous vous battre et vous écraser ». Ça arrive, hein. Nicolas Sarkozy était de ce bois-là. François Hollande et Emmanuel Macron avaient une autre stratégie, on va dire plus, en avançant et en avançant dans l'ombre.
Depuis des mois, Emmanuel Macron avait quand même montré son franc-parler et il devait agacer le président. Comment François Hollande supportait-il cette forme d'impertinence, de liberté d'expression de la part d'Emmanuel Macron, de Gaspard Ganzer?
François Hollande pardonnait à peu près tout à Emmanuel Macron parce que par certains moments, il considérait que c'était son rôle de le faire grandir, comme il a essayé de faire grandir beaucoup de jeunes ministres ou élus, Najat Vallaud-Belkacem, par exemple, Flore Pellerin, Audrey Azoulay. Et donc, c'est vrai qu'il lui passait un peu tout. Et ça énervait d'ailleurs beaucoup dans les rangs du gouvernement, parce que les gens considéraient que c'était un peu le chouchou et qu'il avait des passe-droits. Dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire à partir du printemps et du lancement de En Marche, Emmanuel Macron a quand même franchi la ligne, je ne sais pas si elle était rouge ou jaune, à plusieurs reprises, notamment quand il a dit du président de la République dans une interview à la presse quotidienne régionale « je ne suis pas son obligé ». Là, c'est vrai que dans marque d'insolence, c'était fort. Je crois qu'à partir de ce moment-là, Emmanuel Macron s'attendait à peu près à se faire virer tous les jours, mais il a quand même, et c'est ça qui est intéressant, cherché à rester le plus longtemps possible à Bercy. C'est-à-dire qu'il a retardé le plus longtemps possible son départ. Et il est vraiment parti au moment où il n'était plus possible de rester.
Mais François Hollande le lui disait, tu vas trop loin, arrête ou...
Ben il le disait. Ouais. J'ai assisté, et je le raconte d'ailleurs dans mon livre, à des scènes de recadrage privé, notamment à la suite de cette interview à la presse quotidienne régionale dont je vous parlais à l'instant. Et puis il y a eu des recadrages public, notamment le 14 juillet, parce que Emmanuel Macron avait une nouvelle fois flirté avec la ligne jaune en faisant ce meeting à l'habitualité.
Et, à chaque fois, Emmanuel Macron le rassurait.
À chaque fois. Et à chaque fois, Emmanuel Macron lui disait mais tout ça n'est pas contre toi. J'ai essayé de faire bouger les lignes.
Et confiance. La vie politique, les yeux qui tournent.
Mais il faut reconnaître qu'il est très fort parce que il s'attachait au fond de la démarche sans apparaître de façon conflictuelle avec le président de la République sortant. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans l'archive que...
Coucou, là il se répète, on a déjà eu ça dans la première archive.
D'accord, mais du coup on met quoi à la place?
On va mettre l'archive du 30 août, celle de la passation de pouvoir, puis ensuite tu colleras la réaction de Sapin à l'archive.
Ça marche, la réaction de Sapin.
J'ai touché du doigt les limites de notre système politique. Il pousse à des compromis de dernière minute, car le travail d'explication est rarement mené. Il fait la part belle aux peurs des uns et des autres, à défaut d'avoir construit un consensus idéologique et de fond. Il produit des solutions imparfaites. Toutes ces limites ont construit notre impuissance collective et le fait que nous ne puissions pas aller plus loin. C'est donc un projet ancré dans le réel, exigeant, redonnant à la France sa place, loin des jeux tactiques et d'appareils que nous voulons porter.
Je regrette ce départ personnel pour des raisons qui te sont à la fois personnelles et collectives. Nous avons travaillé dans des conditions de confiance exceptionnelles pour construire un projet qui a été porté par un homme, François Hollande, par un candidat, par un président de la République. Bonne chance, Emmanuel. Bonne chance pour toi. Je souhaite que la bonne chance pour toi soit une bonne chance pour nous tous.
Vous n'avez pas revu les images de cette passation de pouvoir, j'imagine?
Non, je ne les ai pas regardées.
Parce que pendant que vous dites ça, il regarde un peu ailleurs, il a l'air de pas vraiment écouter, il sourit à des gens, il est plus là.
Oui, c'est possible, si lui-même est déjà dans une autre détermination, et puis c'était un peu son habitude, je crois que c'est encore son habitude, il y a des sujets, des mots...
La coupe, on va coller Castaner, c'est intéressant parce que Castaner, c'est le patron de La République En Marche. Alors, il était député très proche de Macron, et il raconte que dans l'équipe Macron, jusqu'au bout, jusqu'à ce que Macron se déclare, Macron leur avait rien dit. Donc eux-mêmes, ils étaient proches de Macron, mais ils savaient même pas s'ils se lançaient dans une campagne présidentielle ou pas, quoi. C'est incroyable.
Il en avait parlé à personne.
À personne. On écoute.
Et au fond, on l'a accompagné, mais j'irais presque jusqu'à 15 jours, 3 semaines. Quand on discutait du moment de quitter le gouvernement, on ne disait pas pour l'élection présidentielle. Ça a été une sorte de sujet tabou. Et on ne voulait pas se laisser envahir par ça. Donc, à quel moment, lui, il y a cru? Je pense que la force d'Emmanuel Macron, c'est à la fois d'avoir des intuitions. Deux fondamentales qu'il a eues, c'est oui, on pouvait gagner la présidentielle sans s'appuyer sur un bon vieux parti politique. Personne n'y croyait. Vous vous souvenez que c'était les questions des journalistes classiques. Et la deuxième intuition, c'était celle du dépassement politique. Droite-gauche, ce débat-là et ce combat-là est archaïque, il est derrière nous. Et à ce moment-là, personne n'y croyait non plus. De ces deux intuitions-là, il construit un parcours politique qui le mène à la présidentielle. Il a pris son risque. Mais ça n'était qu'un moteur. C'était pas une volonté de dire « je vais être président pour être président ».
Oui. Et puis il y a à ce moment-là, dans cette période un peu floue, ce genre de phrase ambiguë prononcée par celui qui sera candidat 3 mois plus tard.
J'ai eu l'occasion de dire au président de la République que je suis à cet égard convaincu que les Français lui rendront justice d'avoir fait face à des difficultés exceptionnelles et d'avoir pris ses responsabilités.
Quand vous écoutez cette phrase, quand François Hollande entend cette phrase, est-ce que ça le rassure, ça le conforte dans sa croyance que finalement Emmanuel Macron n'ira pas jusqu'au bout?
Oui, je pense que ça doit le rassurer, parce qu'il doit se dire que bon, après avoir dit ce genre de phrase, il n'est pas possible d'être candidat contre celui qui a sauvé la France face aux attentats.
Attends, la coupe, c'est dingue, revois la Brutus, c'est toujours pareil en politique.
Et bim! C'est le moment de la fameuse déclaration, là.
Ouais, c'est le moment où il sort du bois en novembre 2016, le 16 novembre.
Ok, allez.
Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Bien sûr, on ne se réveille pas un matin avec cette révélation. La décision de me présenter aux plus hautes charges de la République est le fruit d'une conviction intime et profonde. Je veux faire entrer la France dans le 21e siècle. Cette révolution démocratique, je ne pourrai la mener à bien qu'avec vous.
Gaspard Ganzer, vous étiez le conseiller en communication de François Hollande pendant ces années-là. À l'Élysée, parlez-nous de cette journée, de cette annonce vue de l'intérieur de l'Élysée.
À titre tout à fait personnel, j'ai été pris par deux sentiments contradictoires. D'un côté, une forme de tristesse pour l'aventure que je menais aux côtés de François Hollande et qui devenait de plus en plus difficile à poursuivre à partir de là. Et de l'autre côté, quand même une admiration pour l'audace exceptionnelle d'Emmanuel Macron qui osait tout il appelle quand même à la révolution démocratique. La promesse est importante. Et c'est vrai que maintenant, il faudra juger si elle est tenue.
On revient avec Michel Sapin sur cet épisode et vous allez voir, le plus vieux compagnon de route de François Hollande est dépité devant sa surprenante naïveté, la surprenante naïveté de son ami, même à ce moment-là.
Être candidat, c'est une chose. Être candidat jusqu'au bout, c'est une autre. Et je ne sais pas si Emmanuel Macron aurait été candidat jusqu'au bout, si François Hollande avait été candidat. Ma conviction est que non. Ma conviction est qu'au bout du compte, ce qui a fait sa dynamique, parce que le territoire était entièrement dégagé par l'absence de candidature de François Hollande, ce qui a fait sa dynamique n'aurait pas existé. Et donc, à un moment donné, il y aurait eu une sorte d'épuisement de ce que représentait Emmanuel Macron, et qu'au bout du compte, ça aurait pu profiter à François Hollande. Donc je n'avais pas du tout une conviction qu'il serait candidat jusqu'au bout. J'avais la conviction qu'il était déterminé à être candidat, dans cette période-là de notre vie politique. L'erreur de François Hollande, s'être enfermé dans un calendrier, avoir dit, je dirais d'ici à la fin de l'année, quelle est ma décision, et d'avoir, au fond, de ce point de vue-là, je ne peux pas lui faire reproche, tenu son engagement. Et ma conviction, c'est que si François Hollande avait annoncé sa décision au mois de janvier ou au mois de février, évidemment, la question de la primaire ne serait absolument plus posée. C'eût été un rassemblement derrière lui qui aurait peut-être compris Emmanuel Macron à ce moment-là. Donc il y a une histoire de tempo qui est absolument décisive. Et c'est ce tempo-là qu'accepte de prendre François Hollande qui ouvre le champ, qui donne la dynamique à Emmanuel Macron.
C'est très intéressant, Gaspard Ganzer, ce qu'on vient d'entendre. Parce que lui, évidemment, il était très déçu que François Hollande ne renonce.
Moi, j'ai peut-être une petite nuance avec Michel Sapin, que n'enlève rien l'amitié que j'ai pour lui sur ce sujet. Moi, je crois que si François Hollande avait été candidat à tout prix, c'était prendre le risque d'une division supplémentaire. Et je pense que François Hollande, et il faut lui rendre grâce, fait don de sa personne à ce moment-là, parce que en renonçant,
que la référence.
En renonçant à être candidat, il a permis la victoire d'un progressiste. Et d'ailleurs, quand François Hollande annonce sa non-candidature, comme la chanson de Brassens, la non-demande en mariage, il dit je veux que ça provoque un choc chez tous les progressistes, tous les socialistes, tous ceux de gauche, et c'est ce qui va se produire, parce que la non-candidature de François Hollande ouvre la voie à la victoire de quelqu'un qui appartient à son camp.
Et est-ce que vous pouvez nous raconter le moment où il vous dit qu'il ne se présentera pas, le moment où vous voyez cette décision arriver inéluctable, et le moment où il vous le dit?
Une semaine avant le 1er décembre, je l'ai interrogé sur le chômage. Et c'est vrai que le chômage avait baissé pour 3 mois de suite. Et
la donc, fameuse courbe,
la fameuse courbe du chômage était enfin en train de s'inverser. Trop tard, certainement, mais elle était en train de s'inverser. Je lui dis, c'est bon, tu vas pouvoir être candidat, la courbe est inversée. Et là, il me dit, non mais tu sais Gaspard, le problème, c'est pas le chômage, c'est la division de la gauche et il faut pouvoir se rassembler. Là, je lui dis, je pense qu'on est assez mal parti entre les frondeurs, Mélenchon, les écolos qui vont de leur côté et Macron qui vient d'annoncer sa candidature. Et là, il n'a pas répondu. Et là, je me suis dit, bon, c'est fini. Puis après, pendant plusieurs jours après, il m'a interrogé sur s'il devait faire une déclaration, où est-ce qu'il la faisait, à Paris, en province. Je lui dis, c'est très simple, si tu l'as fait à... Si tu veux être candidat, il faut que tu la fasses en Corrèze. Si tu veux ne pas être candidat, fais-la à Paris. Et au bout d'un... Et tous les jours, ils m'ont posé cette question. Je finis par lui demander le mardi matin. Mais bon, écoute, la question du lieu a peu d'importance. C'est quoi ta décision, au fond, quoi? Et là, il me dit, on va vers une non-candidature. Formule typiquement hollandaise ou hollandienne. Et bon, là, je dis que c'est fini. Et là, il me sort un papier qu'il avait griffonné, 4 pages, et il commence à me lire le truc, qu'il avait visiblement écrit il y a plusieurs jours. C'était un moment un peu éprouvant.
Ouais, c'est un déchirement. C'est la première fois qu'un président de la République décide que les conditions politiques ne sont pas réunies pour qu'il se représente. Est-ce que c'est la présidence Hollande, peut-être son défaut d'incarnation, l'impression qu'il a donnée, finalement, de ne pas trancher des débats qui traînaient depuis des décennies, ou alors justement le fait qu'il mène une politique, la question de la compétitivité par exemple, qui n'avait pas vraiment été explicitement assumée. Est-ce que c'est ça qui a plombé qui ont plombé les années Hollande?
Il y a plein de raisons. Je pense que à la décharge de François Hollande, je pense qu'il y a un contexte épouvantable qui est celui des attentats et d'une crise économique qui dure. Et François Hollande, en fait, finalement, s'écarte d'une partie du chemin qu'il avait dessiné en 2012 parce qu'il doit gérer les attentats terroristes. Et ça, même si les gens le remercient de l'avoir fait, ça lui a pas permis de construire un récit totalement cohérent à l'échelle du quinquennat. Et puis après, des choses qui n'ont pas été comprises, notamment, on va dire, ce choix d'aller vers le renforcement de la compétitivité des entreprises. Ça avait été évoqué en filigrane dans la campagne, mais c'était pas du tout central.
Non, donc, ce qu'on retenait de la campagne, oui, c'est mon ennemi, c'est la finance.
Complètement. C'était dit parmi mille autres choses dans la campagne. Et ça, les gens ne l'ont pas compris, parce que peut-être c'était pas assez bien expliqué. Et puis enfin, François Hollande, face à une crise, et enfin un changement du monde lié à la révolution numérique, il a fait le choix de l'apaisement, de la synthèse, pour que ça se passe bien. Et peut-être qu'une partie des Français attendait quelque chose un peu plus à la hussarde.
Et justement, on n'a pas parlé pendant cette émission de Manuel Valls, mais à ce moment-là, est-ce que le jeu de Manuel Valls influence le cours des choses ?
Je pense que Manuel Valls est un personnage décisif à ce moment-là. Moi, vous savez, j'ai toujours refusé de faire des hiérarchies dans les traîtrises qu'a subi François Hollande tout au long du quinquennat, parce que déjà, c'est absurde, ça ne sert à rien.
Oh là, mais je sens que vous allez la mettre.
mais le dernier coup d'épaule, c'est Manuel Valls qui le met. Vous savez, c'est tel le scorpion qui utilise un cheval pour traverser le fleuve. À un moment, il ne peut pas s'empêcher quand même de mettre le dernier coup avec son dard dans l'épaule de celui qui l'a aidé à traverser la rivière.
Et il coule avec.
Et voilà.
Mais alors du coup, on fait quoi pour la fin?
Ah bah c'est fini.
On laisse comme ça, on n'a pas de chute.
Non, tu veux une chute, tu veux que je... Non, alors, vous voulez toujours des chutes, là c'est bon, c'est fini, non, c'est bien.
Ok, ouais. Moi ça me va.
Bon allez, café.
Ok.
Il nous en reste quand même 8 à faire. Un bon café.
On va avoir 2 alors du coup.
Allez, 3.
Je souhaite, comme toujours, dans 15 jours, devenir votre président.
Le moment est venu.
Je dois m'interroger sur ceux qui fuient le navire.
J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs années.
Du bleu au bleu marine, Nicolas Dupont-Aignan annonce qu'il soutient la candidate Front National.
Après tout, personne n'est obligé.
66% contre 34 pour le FN, Emmanuel Macron, 39 ans, le plus jeune président de l'histoire.
En mars, c'est nous.